Pauline Benedetto est juriste au CIDFF 62 d'Arras, Centre du droit des femmes et des familles. Chaque semaine, vous pouvez sur le 99.9 entendre ses chroniques concernant le droit des femmes, les avancées juridiques et les nouveautés mises en place pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes. À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes du 8 mars, entretien avec elle pour parler de cette journée. On évoquera également, entre autres, les actions du CIDFF 62, les avancées juridiques et les choses qu'il reste encore à faire pour défendre le droit des femmes. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Le 8 mars prochain sera la journée internationale pour le droit des femmes. C'est l'occasion de revenir sur cette journée, sur les évolutions et les actions qui vont être réalisées ce jour. Tout d'abord, revenons sur les origines de la journée du 8 mars. Depuis quand est-elle instaurée ?
Alors, il faut remonter au début du XXe siècle, en 1909 exactement, aux États-Unis, où dans la déclaration du Parti Socialiste, la première journée nationale de la femme trouve son origine. En 1910, la Conférence internationale des femmes socialistes constituée d'une centaine de femmes de 17 pays rassemblés à Copenhague au Danemark, vote à l'unanimité une motion soulignant la nécessité d'une journée internationale des femmes. Plus d'une centaine de femmes représentantes de 17 pays décident à l'unanimité que soit instaurée une journée internationale afin de soutenir les mouvements en faveur des droits des femmes et d'aider à obtenir le fameux suffrage universel des femmes. Mais aucune date précise n'est fixée. Ce n'est que dans les années qui suivront que la date du 8 mars sera retenue. Et c'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars.
Et que fait-on dans le monde le 8 mars pour cette journée ?
Du coup, lors de cette journée, c'est avant tout une journée de rassemblement pour déjà fêter les victoires et les acquis, faire entendre les revendications et améliorer la situation des femmes de manière globale. C'est l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Et d'ailleurs, les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente.
On retourne du côté de chez nous. Que prévoit le CIDFF d'Arras autour du 8 mars ?
Alors, de façon générale, et comme chaque année à l'occasion du 8 mars, donc les CIDFF partout en France, on est présent sur l'ensemble du territoire et en complément de leur action au quotidien, dans le cadre d'un important partenariat associatif et institutionnel local, les CIDFF donc mènent de nombreuses actions pour informer, sensibiliser le public, les pros, les élus, les pouvoirs publics, les entreprises et les médias aux problématiques rencontrées par les femmes dans les domaines de l'accès au droit, de l'emploi, la création d'entreprises, la santé aussi, très important, des femmes, la conjugalité, parentalité, l'égalité des genres et la lutte évidemment contre les violences sexistes et sexuelles parce que ça reste le cœur de notre action. Donc en fait, on va faire des conférences, débats, projections de films, des portes ouvertes, des campagnes d'affichage, des émissions de radio, des sorties d'ouvrages, de pièces de théâtre, des marches, des rencontres sportives féminines aussi. Et puis au CIDFF 62 sur le pôle d'Arras. Nous, on organise cette année, donc une petite nouveauté, c'est qu'on a imaginé un jeu de piste, donc géant, principalement dans le centre-ville d'Arras. En fait, on a sélectionné 8 lieux où seront dissimulées des énigmes à déchiffrer en équipe. Donc là, on a invité tout le public, nos partenaires, voilà, on est en train de constituer les équipes là, en ce moment. En fait, l'idée, c'est de se sensibiliser à 8 inégalités de genre qui subsistent encore et de déchiffrer les énigmes et d'y répondre ensemble. Ce sera un challenge avec des lots à gagner, bien sûr. Et puis, en fait, donc le rendez-vous, c'est à 14h au Beffroi pour un pot d'arrivée. Il y aura aussi la mairie qui est associée à notre jeu, la CUA, la communauté urbaine d'Arras aussi. Et donc, à 14h, le pot, le lancer du départ. Et puis, on va expliquer un peu le jeu. Il y aura aussi la découverte de 2 lieux ressources lors de ce jeu de piste. Pour, voilà, on ne vous spoile pas. On ne va pas vous les dire puisqu'il faudra les retrouver. Donc, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Alors, le CIDFF 62 Arras interviendra également au Mégarama le 8 mars.
Oui, alors à la suite de la projection du film Brillante à 19h30, l'équipe du CIDFF, une partie, sera présente après le film pour animer un débat avec le public sur un film, je cite, qui est rempli d'humanité et de sororité, qui aborde différentes problématiques rencontrées par un groupe d'agentes d'entretien, dont un sujet trop peu médiatisé aussi qui sera abordé, c'est l'illettrisme. Et pour reprendre les mots de la réalisatrice, je cite, « Le sujet principal de mon film n'est pas l'illettrisme, il retrace le parcours souvent difficile rocailleux que doit suivre tout salarié pour parvenir un jour à posséder les armes pour changer son destin professionnel. Je souhaitais faire un film positif, ouvert, incitatif, qui ne soit ni désespérant, ni béatement optimiste. Donc là, l'entrée sera de 6€. Pour le public. On vous attend donc le 8 mars pour tous ces événements.
Est-ce que tu peux nous faire un résumé, un condensé de ce que tu as constaté, toi, en tant que juriste au CIDFF d'Arras, depuis que tu es arrivé à ce poste ?
Oui, alors c'est vrai que comme on intervient sur vraiment beaucoup de volets au CIDFF, donc on est une association d'aide aux victimes, on intervient vraiment sur... on traite forcément les violences en recevant le public qui a besoin de réponses juridiques, par exemple, suite à des situations de violence ou de séparation, sur le droit de la famille. Donc ça, c'est lors des permanences. Mais en fait, c'est indissociable de la prévention qu'on mène au quotidien, que ça soit auprès du public jeune, auprès des étudiants, étudiantes, auprès des professionnels. Et en fait, donc ce qu'on constate aussi avec mes collègues juristes, c'est qu'il y a de plus en plus de questions concernant les séparations, les conséquences des séparations. Et encore un gros problème sur, par exemple, le relogement des femmes. Je parle notamment des femmes parce qu'on reçoit majoritairement des femmes. Moi, si vous voulez, j'ai reçu en 4 ans, j'ai dû recevoir 2 hommes victimes de violences lors des permanences juridiques. Ce qui marque le plus, et nous, dans notre accompagnement, c'est très compliqué parce qu'on essaye de faire un accompagnement global. Mais en fait, quand se pose la question du relogement, ça peut prendre du temps. Et c'est vraiment ça qui fait qu'il peut aussi y avoir des retours au domicile des femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très compliqué. Parce que là, c'est vraiment un problème concret. Il y a pas assez de logement, en fait. Et on dit que c'est pas à la victime de partir, mais des fois, il n'y a pas forcément d'autres solutions. Donc voilà, ça, c'est un problème dont le gouvernement se saisit, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, là, je discute avec un foyer, justement, qui est en train d'obtenir, qui a répondu à un appel à projet pour obtenir plus de places d'hébergement. Mais ça se compte en une petite dizaine de places.
Ouais. Et par rapport à la demande, est-ce que la demande est un peu entre guillemets exponentielle par rapport au nombre de logements qui sont très réduits ?
Oui, il y a des demandes. Et puis après, nous, on n'est pas spécialisés non plus dans ça, mais on doit quand même pouvoir apporter un premier degré de réponse aux personnes. C'est que oui, il y a de plus en plus de demandes et il y a aussi des demandes qui ne vont pas forcément être traitées en urgence parce qu'il faudra des éléments pour pouvoir prouver le caractère urgent. Et des fois, il y a des femmes qui ne vont pas forcément vouloir porter plainte tout de suite, donc ça va les bloquer dans la procédure. Enfin voilà, c'est encore des choses qui alourdissent aussi leur reconstruction, la sortie, le parcours de sortie des violences.
Le gouvernement évidemment fait beaucoup de choses. Le ministère de l'Égalité hommes-femmes propose pas mal de choses. On en parle un peu pratiquement toutes les semaines quand tu viens nous faire tes chroniques, des avancées. Est-ce que c'est assez conséquent ? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui reculent ou qui stagnent et qui n'arrivent pas à décoller ? Il y a peut-être quelque chose qui devrait être proposé. Est-ce que vous, en tant que juriste, mais aussi membre du CIDFF, vous pouvez intervenir auprès soit des parlementaires, soit du ministère, pour pouvoir proposer des choses et dire là, il faut que ça avance.
Oui, alors nous, on est représentés par une fédération nationale. Il y a un CIDFF dans chaque département, mais on a une fédération nationale qui a vraiment... Elles nous sondent en fait régulièrement, elles sondent les salariés, les équipes, on a des commissions aussi, on va là-bas en tant que juriste, en tant qu'animatrice aussi de prévention pour essayer de du coup remonter les besoins, les problématiques de chaque territoire. Et la Fédération nationale, elle bien sûr qu'elle communique avec le ministère pour faire des alertes en fait, voilà. Et ça, c'est ça peut être pris en compte, bien évidemment. Les associations d'aide aux victimes sont bien évidemment entendues. Après, il y a tout le processus derrière législatif. On peut aussi être amené à commenter, à proposer même des nouvelles dispositions de loi, des propositions en fait, pour faire avancer, changer la loi. C'est vrai que nous, dans les problématiques de terrain, comme je vous ai dit, on a le logement qui est vraiment problématique. Et on a aussi une problématique qui revenait souvent et qu'on me posait très très souvent. Et nous, on était un peu démunis aussi face à ça. C'est par exemple une personne qui est victime de violence et qui fait le choix, parce qu'on on dit que c'est pas la victime de partir, mais quand c'est son choix aussi qu'elle veut partir, nous on avance on est sans jugement par rapport à ça. Par exemple aller récupérer quelque chose de simple, récupérer des affaires ou des choses comme ça, et ça c'est quelque chose qu'on minimise, mais ça peut être aussi traumatisant pour la personne de pas pouvoir récupérer ses affaires parce que la personne elle est toujours là. Et quand elle est pas encore elle bénéficie pas encore d'un dispositif juridique de protection, ça peut être compliqué parce que si en plus elle a pas de famille pour l'aider, et là la police c'est compliqué aussi pour eux de ils peuvent pas mobiliser du coup enfin ils peuvent pas faire des allers-retours accompagner la personne, donc c'est vrai que là il y a quand même un gros vide et ça n'avance pas beaucoup à ce niveau-là, surtout en France.
J'ai encore deux petites questions. Est-ce que ce qu'a mis en place le gouvernement notamment il y a un dispositif
Angela, non,
voilà, c'est Angela, donc ouais. Est-ce que ça marche vraiment, est-ce qu'il y a des retombées comme quoi bah oui ça marche, ça fonctionne?
Ouais, du recul que j'en ai, c'est non, on a mis en place dispositif sur Arras. Alors il y a eu une sensibilisation qui a été réalisée par le CIDFF auprès des commerçants et commerçantes qui se sont inscrits en fait, qui ont voulu signer la charte. Il y a eu deux formations qui ont été faites hein, l'année dernière et puis là en fin janvier. Sensibilisation pour leur dire voilà, vous acceptez de du coup qu'il y a un sticker. En fait c'est un sticker qui est posé sur leur vitrine hein, et du coup voilà, ça soulevait aussi beaucoup de questions parce que même s'ils sont pleins de bonne volonté, il faut aussi qu'ils puissent accueillir. S'il y a une personne qui se présente, il faut pouvoir avoir deux trois réflexes quand même et pas pouvoir réorienter aussi la personne et puis appeler les bons numéros. Donc on leur a établi une charte avec un livret très clair où ils peuvent s'appuyer sur les numéros, les contacts en fonction de chaque situation et de l'urgence aussi à traiter de la situation. Là, en discutant avec la police qui est joint évidemment à ce dispositif, il n'y a pas eu de situation de harcèlement de rue en fait, où il y a des personnes qui ont dû prononcer le mot Angela, voilà. Donc il n'y en a pas eu. Alors on se dit que c'est que sur Arras. Du coup, il n'y a pas forcément de problématique comme ça. Je pense que c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, tant mieux sur la rageoie, mais ce n'est pas forcément le cas partout en France, puisqu'il y a quand même des études qui montrent qu'il y a quand même 80% des femmes qui ont été interrogées en 2021 qui ont déjà subi du harcèlement de rue.
C'est quand même un constat un peu accablant quand même, malgré tout. Et ma dernière question, elle est un petit peu plus personnelle. Quand on est juriste au CIDFF d'Arras, est-ce qu'on applique vraiment la loi comme bouclier, on va dire, ou ce que le gouvernement propose, ou est-ce que vous, en tant que juriste, avec votre sensibilité, vous intervenez, vous interprétez les choses dans l'urgence, vous détectez peut-être quelque chose que la victime n'a pas forcément le déclic de faire des démarches ou quoi. Est-ce qu'il y a une interprétation personnelle? Parce que ça aussi, c'est le rapport d'humain à humain et de femme à femme, éventuellement.
C'est une question hyper intéressante. On recherche tous les... Enfin, voilà, on se met à jour tout le temps en tant que juriste pour s'améliorer sur la connaissance des dispositifs et de leur mise en place. Parce que c'est bien beau de connaître, il existe l'ordonnance de protection, le bracelet anti-rapprochement. Mais en gros, il y a des petits détails quand même et des conditions. Donc nous, notre but, c'est de s'assurer que la personne, si on lui parle de ce dispositif et qu'elle est intéressée, il faut qu'on s'assure qu'elle remplisse ses conditions pour pouvoir... Donc nous, notre boulot, c'est quand même de s'assurer de ça pour pas non plus donner de faux espoirs à la personne. Après, sur la question de l'interprétation des textes ou des personnes qui auraient besoin de...
Une victime qui, finalement, est dépendante, malgré tout, même si elle subit des violences conjugales, comment... En vis-à-vis, comment on interprète justement pour lui faire comprendre que non, pas de ces violences, mais
avec la notion d'emprise.
Voilà, l'emprise, c'est ça, c'est le mot que je cherchais.
C'est particulier quand même le CIDFF, parce que les personnes, quand elles viennent à nous, elles ne sont pas forcées de venir. Donc elles viennent sur la base, elles connaissent, elles se sont renseignées un petit peu sur la question, elles ont été orientées, si c'est les pros qui les ont orientées, que ce soit la police ou des amis ou le centre social par exemple, elles sont quand même orientées, informées sur ce qu'on fait et qui elles vont voir. Donc en fait, elles sont déjà, c'est un énorme pas déjà de venir au CIDFF, de venir parler à une inconnue, même si c'est une professionnelle. Elles ont un premier pas dans la reconnaissance de ce qu'elles sont en train de vivre quand même. J'ai jamais eu de personnes qui tombent, très rarement de personnes qui tombaient complètement dénues quand elles venaient me parler de leur situation. Après, il y a beaucoup de minimisation ou de méconnaissance de certaines formes de violence encore, économiques, administratives. Les gens pensent que oui, ça fait partie comme ça des violences, mais c'est pas forcément puni de manière indépendante. alors que c'est faux. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui, par rapport à l'emprise, qui sous-estiment aussi les conséquences que ça peut avoir sur elles et sur leurs enfants notamment. Il y a eu des mots qui revenaient beaucoup de fois, c'était la différence que font les gens entre les violences physiques qui arrivent à associer avec le côté pénal et c'est interdit, et les violences psychologiques, donc difficulté de mettre le mot violence sur... par exemple, une situation de harcèlement moral, hein, voilà. Et du coup, c'était toujours oui, non, mais il m'a pas frappé. C'est juste des insultes, juste des insultes. Voilà, ça c'est une phrase.
Mais déjà là, la limite, elle est un peu franchie, quoi.
C'est juste des insultes.
Ouais. Bon, avant de se quitter, ma question bonus, une idée qui me vient à l'esprit. Est-ce que il y a eu des affaires, peut-être, tu as eu vent ou tu as été confronté à des affaires où les animaux ont joué un rôle ? Parce que j'imagine aussi que il y a les enfants, ok. On sait que la maman, généralement, à la garde de l'enfant, s'il y a des violences, etc. Il y a un éloignement du conjoint. Les animaux, comment ça se passe ? Est-ce que parce qu'il y a un attachement aussi. On a un chien en commun. Ça peut jouer également sur le fait que la personne retourne à son domicile parce que son chien, son chat ou autre.
Ouais. Nous, on a des... là, ça me faisait penser à une dame, justement. C'est pas moi qui l'accompagne, c'est une collègue à moi qui accompagne et qui, du coup, a des difficultés parce qu'elle cherche une place, elle cherche à être relogée. Elle remplit les conditions, sauf qu'en fait, elle peut, les structures d'hébergement ne peuvent pas la recevoir à cause de son animal, de son chien. Forcément, le lien qu'a cette personne avec l'animal, c'est un peu ce qui aussi peut la sauver d'une certaine manière aussi. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? En gros, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là ? Est-ce qu'il faut changer aussi les règlements ? Est-ce qu'il faut... ça représente quand même une minorité dans nos accompagnements, ces témoignages-là. Mais c'est vrai que là, cette dame, elle avait le sentiment que, elle devait... Alors déjà, sa situation très compliquée. Et en plus de ça, ça veut dire quoi ? Si je dois me reloger, je dois me séparer de mon animal. Donc il y a un vide à ce niveau-là. Ça, c'est...
Eh bien, peut-être que le gouvernement aura les choses prochainement. Merci Pauline, on en sait un petit peu plus sur ton travail. Et puis, on te retrouve très bientôt pour d'autres chroniques sur Radio PFM, comme d'habitude. Merci beaucoup.
À bientôt, merci.
Entretien réalisé avec Pauline Benedetto, juriste au CIDFF 62 d'Arras, Centre du droit des femmes et des familles, pour évoquer la journée du 8 mars consacrée à la lutte pour le droit des femmes et les actions que propose cette structure. Une interview proposée dans le cadre de notre semaine féminin pluriel sur Radio PFM.